Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le commissaire européen au marché intérieur et à l'espace. Et je le promets, on va parler guerre des étoiles, constellations et espionnage. C'est pas une blague. Mais commençons par ce qui est pour le coup sacrément tragique, l'Ukraine. Des tirs à proximité de la centrale de Zaporijjia. Et Raphaël Grossi, le président de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui alerte, il était hier soir sur BFM TV, je voudrais qu'on l'écoute.
La situation est gravissime. C'est pas nouveau. Moi, on est en train de le dire et de le redire ici au Conseil de sécurité des Nations Unies, à Saint-Pétersbourg avec le président Poutine, à Kiev avec le président Zelensky. Je le dis partout. La situation est intenable et aujourd'hui, on a vu, aujourd'hui et hier soir, en fait, encore une fois, comment ça peut dégrader et ça peut nous amener vers un accident nucléaire des conséquences gravissimes.
Il y a urgence, il parle d'une situation gravissime et d'ailleurs, il renvoie dos à dos hein, les deux présidents, le président russe comme le président ukrainien, en disant arrêtez de jouer avec le feu. Est-ce que vous, commissaire européen, vous êtes inquiet aussi pour l'Europe ?
Non, mais d'abord, on est tous extrêmement préoccupés de ce qui se passe effectivement autour de la centrale. On sait qu'elle est à l'arrêt aujourd'hui. Il y a encore 4000 personnels ukrainiens qui la maintiennent. Il faut leur rendre hommage. Alors cette centrale, elle est sur la ligne de front. On voit évidemment. Il y a eu effectivement ces bombardements donc en périphérie. On va voir évidemment les experts. Il y a deux experts qui sont sur place.
Et donc, qui devraient commencer à rendre leurs conclusions dès aujourd'hui.
Hein. Il semble que, heureusement, fort heureusement, il n'y ait pas de dommages et de risques qu'on pourrait évidemment attendre avec ce type évidemment d'intervention. Mais il faut être extraordinairement attentif et vigilant. Enfin, il faut quand même voir les choses comme elles sont. Vladimir Poutine, maintenant, depuis qu'il a engagé cette guerre, d'abord, pratique beaucoup le mensonge, il faut dire les choses comme elles sont. Hein.
Oui. Bon,
voilà, on est maintenant habitué, hein, on a l'habitude. Et puis surtout, il a décidé, et on le voit jour après jour, de mettre à mal et à bas l'ensemble de l'infrastructure électrique du pays. Et il le fait de façon méthodique et de façon totalement scandaleuse.
Une partie du pays qui est d'ailleurs toujours privée d'accès au réseau, à l'électricité, à la téléphonie.
Et on va voir ce qui se passe encore aujourd'hui et demain. Donc il le fait systématiquement. Donc, si vous permettrez de dire que les suspicions, elles sont plutôt de son côté. Parce qu'encore une fois, c'est sa stratégie.
Vous prenez le risque de dire ça, on ne sait pas à ce
stade. On ne sait pas, mais quand on voit ce qu'il a fait, on voit évidemment qu'il n'hésite pas à aller... on y appelait ça au début une opération spéciale, je crois. Bon, on voit ce que c'est qu'une opération spéciale quand on voit maintenant plus de 10 millions d'Ukrainiens qui sont privés d'électricité par moins 10, plus d'eau... Donc, au fond, on a maintenant, sur cette guerre qu'il a voulu, qu'il a installée sur notre continent, nous, Européens, vous me demandiez si on était inquiets pour l'Europe. Bien sûr que c'est un problème pour l'Europe. Bien entendu que c'est l'Europe qui est en premier chef concernée. On a désormais cinq fronts, je dirais, avec cette guerre. Et évidemment, d'abord, le front militaire. Et l'Europe continue et continuera d'assister massivement l'Ukraine avec les besoins dont elle nous fera part pour son matériel et ses équipements militaires, avec évidemment nos alliés, en particulier les États-Unis, évidemment. Deuxièmement, il y a le front économique. Il faut évidemment que l'Ukraine, est quasiment un pays en guerre, une activité économique dont on imagine ce qu'elle est, donc il faut évidemment assister, et la présidente de la Commission a décidé de proposer 18 milliards d'euros de soutien l'année prochaine, tout simplement parce qu'il faut, encore une fois, faire en sorte que l'Ukraine ne s'effondre pas. Ensuite, il y a le troisième point, qui est évidemment le front humanitaire, parce qu'il faut évidemment aider l'ensemble de ces femmes, ces hommes, ces enfants.
Militaire, économique, humanitaire.
Humanitaire, bien sûr, donc là encore, on est très mobilisés. Alors évidemment, avec des soins et des secours, mais aussi avec des infrastructures de substitution, pour tout simplement permettre qu'il y ait quand même de l'électricité, des générateurs, des ingénieurs qui vont venir pour réparer évidemment les infrastructures. Il y a le quatrième front qui est... Évidemment, un front qui est aussi D'ailleurs, qu'il faut se préparer. Si jamais, effectivement, l'hiver, ça continue comme ça, et Vladimir Poutine continue, il faut s'attendre à ce qu'il y ait potentiellement, de nouveau, des migrants, des malheureux qui demandent à refranchir la frontière, les frontières qui jouxtent évidemment l'Ukraine et l'Europe, parce que il faudra bien les protéger. Donc vous voyez qu'on est quand même sur une démarche qui est quand même multiforme et que l'Europe est en premier chef concernée,
mobilisée. On va revenir sur ce que vous disiez aussi sur les migrants, sur la façon dont ils sont gérés au sein de l'Europe. Mais vous n'avez pas hésité à dire, voilà, pour moi il n'y a pas vraiment grand doute, puisque c'est quand même Vladimir Poutine qui est à la manœuvre. Je me permets de vous poser cette question qui semble un peu taboue, mais Volodymyr Zelensky a eu une réaction lorsqu'il y a eu ces deux explosions sur le sol polonais, où il a immédiatement accusé les Russes. A posteriori, il s'est rendu compte, mais assez vite, qu'il s'agissait en réalité de deux missiles antimissiles d'origine ukrainien. Il ne l'a toujours pas reconnu. Il dit je ne sais pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, pour le coup, le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique dit on ne sait pas qui tire autour de la centrale de Zaporijjia. Est-ce que on peut faire toute confiance au président ukrainien? Est-ce qu'il faut faire toute confiance au président ukrainien?
Bien sûr, vous ne m'avez pas fait dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit que évidemment, instruit de ce qui se passe maintenant depuis plusieurs mois, quand il y a suspicion, On regarde plutôt vers Moscou que vers Kiev.
Évidemment,
et c'est ce que j'ai dit.
C'est l'attaquant, il y a aucun doute là-dessus.
Parce qu'au fond, derrière tout ça, l'origine, c'est la guerre, c'est l'agression. Alors, vous m'interrogez sur Volodymyr Zelensky, effectivement, et sur ces deux missiles qui sont, hélas, et tragiquement, tombés du côté polonais, en faisant, par parenthèse, quand même, deux victimes qui se trouvaient là par hasard et qui ont perdu la vie. Bon, alors, l'origine, encore une fois. C'est la guerre, et c'est la guerre voulue, menée par Vladimir Poutine. Il ne faut jamais l'oublier. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle en langage militaire, l'attribution. L'attribution, elle est encore en cours en ce moment, donc on n'a pas encore attribué. C'est vrai qu'il y a, voilà, les experts se sont exprimés, il y a deux cas de figure, soit un missile russe, qui ne sont pas très précis ces temps-ci, parce qu'il manque de semi-conducteurs, et notamment de composants critiques, alors qu'il y aurait peut-être.
Ça semble être une hypothèse.
Peut-être.
Pour leur écarter.
On va voir. Mm-hmm. Laissons les experts parler. Laissons l'attribution se réaliser. Et puis, il y a le deuxième élément qui serait un missile, sol-air, pour effectivement abattre des missiles ukrainiens. Parce qu'on sait que, des missiles russes, excusez-moi. Parce qu'on sait quand même que ce sont des centaines de missiles qu'en ce moment, Vladimir Poutine envoie partout en Ukraine. Et on l'a dit sur les infrastructures critiques. Donc voilà. Donc maintenant, alors évidemment, Volodymyr Zelensky, c'est quand même un chef d'État qui est en guerre. Il faut juste le rappeler. Dans une guerre qui est extrêmement difficile, extrêmement cruelle. Voilà, donc il s'est exprimé au début, il a ensuite un peu corrigé, dont acte.
Thierry Breton, vous disiez à l'instant que l'un des fronts sur lesquels l'Europe est obligée de se mobiliser face à cette situation, c'est notamment aussi la possibilité qu'une nouvelle vague d'Ukrainiens tente de venir trouver refuge en Europe. Et vous disiez, là encore, l'Europe sera au rendez-vous. Je voudrais qu'on revienne sur l'épisode de l'Océan Viking qui dit beaucoup de la situation européenne aujourd'hui et du lien entre la France et ses voisins. L'Océan Viking, c'est donc ce bateau de 234 migrants qui a été d'abord refusé par Malte. Enfin, Malte n'a même pas répondu à l'appel, puis refusé par l'Italie et finalement accueilli sur les côtes françaises. Et on s'est rendu compte, eh bien, que c'était extrêmement difficile pour les Français, en tout cas qu'il y a eu un fiasco juridique dans la gestion du dossier de ces migrants et qu'ils se retrouvent aujourd'hui pour une grande partie dans la nature. Est-ce que ça veut dire que la répartition des migrants, quand on dit qu'il y a une répartition des migrants entre les différents pays, n'est en réalité que théorique?
Alors, il y a deux choses. D'abord, on vient de parler, parce que c'est ce que nous vivons quand même, de potentiel, on est là et on va tout faire évidemment pour que les Ukrainiennes, les Ukrainiens, leurs enfants puissent rester évidemment dans leur pays, parce que c'est ce qu'ils souhaitent, ça veut dire encore une fois les assister. Mais il faut se préparer à tout, et ils peuvent évidemment demander asile, compte tenu de la situation dans leur pays, et c'est le droit d'asile qui s'exercera, il peut s'exercer encore une fois, avec, on l'a vu, quand même des millions, c'est pas des centaines de milliers, c'est pas des milliers, c'est pas des centaines, c'est des millions qui ont franchi la frontière, les frontières européennes, et que nous avons su accueillir. Donc on sait le faire. Je veux juste le rappeler. Maintenant, sur le cas auquel espèce l'Océan Viking, il y a deux choses. Il faut toujours les avoir en tête sur ces questions qui sont extrêmement sensibles, difficiles, parce qu'au fond, derrière, c'est des drames humains, hein, individuels. Le premier, c'est le droit de la mer. Le droit de la mer, donc, auquel souscrivent tous les États, c'est un droit international. C'est lorsqu'un bateau est en péril ou lorsqu'il a à son bord des personnes en péril, il doit pouvoir accoster dans le port le plus proche. Ça, c'est le droit de la mer. Et ce droit de la mer doit être respecté par tous. Ceux qui ne l'ont pas respecté devront expliquer pourquoi ils ne l'ont pas respecté. Deuxièmement, il y a le droit d'asile. Lorsque le navire accoste, bien évidemment, les gens sont accueillis. Et puis, vous avez deux catégories. Vous avez ceux qui ne peuvent pas demander le droit d'asile, dont les critères sont assez stricts, évidemment, hein, pour pouvoir bénéficier du droit d'asile. Mais dans ces cas-là, évidemment, on ne peut pas les garder. Donc, ils sont ramenés dans leur pays d'origine. Et puis, il y a ceux qui peuvent prétendre au droit d'asile. Et à ce moment-là, il y a effectivement un mécanisme où on va demander aux États membres combien et qui peuvent en prendre. Et à ce moment-là, c'est là où se fait précisément ces propositions et allocations, donc, pour se partager, comme on l'a fait, par parenthèse, comme on l'a fait avec les migrants et les réfugiés ukrainiens. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est que la Commission européenne a mis sur la table précisément un mécanisme pour renforcer. Parce qu'on voit bien qu'il faut être beaucoup plus précis pour faire en sorte que lorsque un flux de migrants qui peuvent prétendre au droit d'asile arrivent à quelques points de notre continent, que ce soit en Pologne, que ce soit à la frontière de Biélorusse,
que ce soit au port de Toulon,
il faut effectivement faire en sorte qu'on ait un mécanisme qui soit beaucoup plus renforcé, qui soit beaucoup plus coordonné, je dis bien. Donc cette proposition, elle est sur la table, elle est maintenant à la main des États membres à discuter. On espère qu'ils vont le discuter rapidement, parce que précisément, ça permettrait de résoudre en très grande partie ce problème.
Mais c'est vrai que c'est compliqué de parler de répartition de migrants dans un espace sans frontières.
Mais pas du tout. Les États membres, à ce moment-là, certains peuvent en accueillir plus que d'autres. Il y a aussi une répartition qui se fera avec une assistance financière. Donc tout ça est aujourd'hui sur la table. Donc j'espère que les États membres vont le voter rapidement.
Je note quand même que vous avez dit, Thierry Breton, à l'instant, que ceux qui n'avaient pas respecté le droit de la mer devront s'en expliquer.
C'est un autre droit.
J'imagine que là, vous visez Malte et l'Italie.
C'est un autre droit. C'est le droit international. Effectivement, il faut le respecter.
L'Italie, qui a été quand même pointée du doigt par la France, comme ayant fait, je cite, une mauvaise manière dans cette situation. Vous qui êtes commissaire européen, alors vous êtes français, mais en tant que commissaire européen, vous n'êtes pas français, vous êtes européen. J'imagine la difficulté que c'est quand même de réussir à mettre tout ce monde d'accord. On se l'était toujours dit, mais là maintenant ça craque ouvertement. C'est-à-dire ce genre de propos sont tenus aujourd'hui par le chef d'État français à propos de la chef du gouvernement italien.
Écoutez, on a un nouveau gouvernement italien, il vient de... Je dirais de prendre ses marques, si vous me permettez de m'exprimer ainsi. Voilà, donc maintenant, effectivement, lorsque on est membre de l'Union européenne, vous savez, on est un grand continent. On est le premier des continents démocratiques de la planète. On est une fois et demie plus important en termes de nombre d'habitants que les États-Unis. Bien sûr, je mets l'Inde de côté. Notre continent, il fonctionne sur des règles. Ces règles, c'est l'état de droit. Ces règles, elles sont partagées par tous. Voilà, il faut que chacun comprenne bien ce qu'elles veulent dire, parce que c'est notre force commune. Moi-même, j'irai du reste bientôt en Italie, et je ne doute pas que les choses se passeront bien.
Thierry Breton, parlons du prix du gaz et de l'électricité. La France va légèrement assouplir, en tout cas alléger le bouclier tarifaire, mais c'est la France qui le fait, et chaque pays fait de son côté. Est-ce qu'on ne pourrait pas plafonner le prix du gaz au niveau européen ?
Alors oui, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps et que je demande, moi, depuis longtemps. C'est très important. Il faut, je crois, pouvoir faire deux choses. Et du reste, ce sera discuté et proposé, donc, dès cette semaine, il y a une réunion des conseils des ministres de l'énergie, donc elle est très importante, avec deux volets, si vous permettez. D'abord, il y a effectivement le fait de pouvoir plafonner les prix du gaz, et notamment pour éviter ces emballées qu'on a vues. Bon, ça a bien fonctionné parce qu'on l'a dit. On va le faire, ça va être proposé donc dans quelques jours, de façon à avoir...
Efficacité immédiate.
D'abord, on l'a vu, parce qu'à partir du moment où on va le faire, c'est clair. Mmh. On l'a vu notamment au marché d'Amsterdam, le prix du gaz a clairement baissé, il a été divisé par 3 par rapport au pic. C'est vrai aussi qu'entre-temps, nous avons maintenant nos cuves stratégiques qui sont pleines à 95%.
Dans tous les pays ?
Pour tout l'ensemble de l'Union européenne. Donc c'est quelque chose qui était un objectif. On est au-delà de l'objectif que nous étions fixés, donc on passera l'hiver, évidemment. Mais il faut aussi travailler, peut-être un mécanisme, tant que celui-ci va être mis sur la table, et je ne doute pas qu'il sera accepté. Il y a aussi un mécanisme qui pourrait veiller à plafonner les prix du gaz encore plus lorsque le gaz est utilisé pour faire de l'électricité. C'est quelque chose qui a été mis en place, notamment en Espagne, au Portugal, et qui peut être intéressant. Donc j'espère que ce sera aussi discuté. Donc maintenant, c'est les États membres qui doivent s'en emparer. Puis il y a un troisième volet sur lequel je voudrais revenir, c'est effectivement le fait d'acheter ensemble. Il y aura donc une obligation d'acheter ensemble pour un minimum de 15%. Alors certains disent 15%, c'est pas assez pour nos réserves stratégiques pour passer l'hiver 2023. Mais l'Europe, c'est aussi travailler plus ensemble et comprendre le bénéfice qu'il y a à travailler ensemble. En d'autres termes, on a mis 15% minimum. Mais je sais par expérience, parce que je l'ai fait pour les vaccins lorsque j'en ai été chargé, lorsqu'on commence à travailler ensemble et que la mécanique s'enclenche, à ce moment-là, tout le monde voit les bénéfices et on va beaucoup plus loin que les 15%. Donc ces 15%, c'est un minimum. Ça va nous permettre de peser davantage sur les prix du gaz. Il y a une plateforme qui va permettre de le faire. Et puis le dernier volet, c'est évidemment, entre-temps, il faut passer la crise. Il faut passer ces moments où même si le prix du gaz a été divisé, même si le prix du pétrole aujourd'hui baisse encore ce matin, il n'en demeure pas moins qu'il faut être extraordinairement attentif et qu'on a un impact très fort potentiellement, si on le dit sur les ménages, il y a un bouclier, mais aussi sur les entreprises. Je ne cesse de le dire depuis maintenant plus de 2 mois, c'est un sujet très important parce qu'évidemment, il faut d'abord, un, maintenir une véritable compétition au niveau identique, au niveau de l'ensemble de l'Union européenne.
Donc, parce que là, il y a quand même
si les États membres ont la possibilité de s'endetter pour pouvoir répondre à cette demande légitime des entreprises, il faut que tout le monde puisse le faire dans les mêmes conditions.
Là, c'est une forme de distorsion de concurrence, en
aujourd'hui,
quelque sorte.
Aujourd'hui, oui, dans la
si
mesure...
Certaines entreprises dans certains pays sont beaucoup plus aidées. Je pense à l'Allemagne, qui a les moyens aujourd'hui d'emprunter, comme vous le dites, et qui donc peut massivement aider ses entreprises. Ces entreprises vont davantage tenir le coup que celles de ses voisins.
C'est la raison pour laquelle, avec mon collègue Paolo Gentiloni, qui est le commissaire en charge de l'économie, tous les deux, nous avons proposé d'avoir un mécanisme, comme on l'avait mis en place au moment du début de la crise Covid, non pas pour s'endetter mutuellement ensemble, mais pour permettre à tous les États membres d'avoir le même niveau d'endettement, le même accès à l'endettement, pour éviter précisément les distorsions de concurrence. Parce que, par exemple, l'Allemagne a un niveau de dette de 70% par rapport au PIB.
Elle est en meilleure santé.
L'Italie à 150%. Donc, évidemment, on imagine bien que c'est plus facile pour l'Allemagne de s'endetter que pour l'Italie. Et donc, il faut que chacun puisse avoir le même taux d'endettement. Et ça, on peut le garantir. C'est le mécanisme que nous souhaitons mettre sur pied très rapidement pour permettre précisément...
C'est à l'intérêt de l'Italie ou de la France, par exemple. C'est un peu moins à l'intérêt de l'Allemagne.
Mais c'est pas grave, parce qu'encore une fois, l'Allemagne ne paiera pas. L'Allemagne, encore une fois, elle s'endette comme elle peut, mais la Commission peut garantir, trouver un mécanisme pour que nous garantissions ensemble des taux d'intérêt identiques pour éviter cette fragmentation.
On paye aujourd'hui l'électricité beaucoup plus cher qu'on pourrait la payer parce qu'elle est toujours corrélée, les prix du gaz et de l'électricité sont toujours corrélés. Ça fait des semaines que tous mes invités, membres du gouvernement, voire même députés, disent il faut décorréler les deux. Pourquoi ça se fait toujours pas ?
Alors d'abord, c'est bien la raison pour laquelle on veut plafonner les prix du gaz qui servent à l'électricité. Deuxièmement, il faut voir que cette décision, elle avait été prise à l'unanimité, donc ça fait longtemps, des États membres, mais notamment par la France et par tous les pays.
Oui, mais
depuis 2011, la situation a changé. Donc il faut maintenant, pour le faire, c'est extrêmement complexe. Donc on y travaille. C'est complexe pourquoi ?
On perd du temps.
Oui, mais je vais vous, en 2 mots, si vous le permettez,
allez-y,
je crois que nos téléspectateurs vont le comprendre. Il s'agit aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine, évidemment, qui change beaucoup de choses, et puis il y a aussi la décarbonation de notre continent à l'horizon 2050. Ça veut donc dire maintenant, décisions qui ont été prises, une décision, et puis des faits, qui font qu'il faut revoir complètement le marché de l'électricité. Alors, on y travaille nuit et jour, ça veut dire réfléchir à ce qu'il faut pour être un continent décarboné en matière de production d'électricité. Vous m'avez entendu dire à maintes reprises, il faut donc accroître notre parc nucléaire au niveau européen, parce qu'on n'y arrivera pas sans cela. J'ai été évidemment le premier à le dire en tant que commissaire, et vous le savez, et on continue. Il faut travailler avec évidemment des innovations, de la technologie, de la science.
Vous le dites et vous le redites.
Ça veut dire aussi accroître évidemment l'ensemble de nos énergies renouvelables. Ça veut dire avoir un champ très important donc de projets pour électrifier, mais aussi d'interconnexion, d'électrification, de management des pics, c'est-à-dire de grid management. Donc tout ça, on est en train de le finaliser. Ça veut dire des investissements considérables en amont. Et c'est lorsqu'on aura fini ce travail, donc d'ici la fin de l'année, donc ça fera 2 mois, qu'on pourra à ce moment-là dire, ben voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour un nouveau marché d'électricité et le réguler. Entre-temps, il faut passer la crise, d'où le soutien que j'appelle de mes voeux pour les entreprises.
Thierry Breton, vous êtes commissaire européen au marché intérieur et en charge de l'espace historique, dites-vous, après Galiléo et Copernic. Bienvenue à Iris, voilà ce que vous avez tweeté. La nouvelle infrastructure de résilience et d'interconnexion sécurisée par satellite. On va donc avoir une constellation de satellites européens. Ça marche quand ? Ça commence quand ? Ça va servir à quoi ?
C'est encore un exemple de l'Europe, ce qu'elle peut faire lorsqu'elle est unie. C'est l'ensemble des 27 États membres sur la proposition de la Commission et de mes services. Donc, nous avons souhaité avoir cette troisième constellation. Vous avez rappelé pour nos téléspectateurs Galileo, c'est la constellation donc de positionnement par satellite. C'est le GPS européen. On est beaucoup plus, du reste, performant que le GPS américain. Du reste, on sert non seulement l'intégralité, beaucoup plus précis, des Européens, mais aussi des milliards d'utilisateurs en dehors de l'Europe. C'est donc très important. Deuxièmement, il y a Copernicus qui nous permet de visualiser en permanence ce qui se passe. C'est les yeux, quelque part, de l'Europe sur l'ensemble de la planète, par satellite. Et puis maintenant, c'est la troisième constellation, donc, qui va nous permettre d'avoir de la connexion hyper sécurisée. Parce qu'on sait évidemment que l'un des problèmes, la cybersécurité, la pénétration des réseaux, c'est un sujet absolument essentiel.
On ne sera plus donc, dépendant.
On ne sera plus dépendant, pour l'instant on l'est encore, on ne sera plus dépendant. On aura donc une constellation qui sera souveraine de satellites donc mixtes en orbite basse à 450, 420, 450 kilomètres, en s'appuyant également sur des constellations qui existent déjà moyennes, donc 10 000 kilomètres, ou géostationnaires, 36 000 kilomètres. Et c'est l'ensemble cette constellation qui a été donc décidé, voté et qui va être mise en œuvre. C'est vrai que c'est une très grande nouvelle pour l'Europe, avec toutes les technologies nouvelles, les technologies quantiques, et puis la capacité, bien sûr, d'offrir de la connectivité sécurisée partout en Europe, pour les gouvernements, pour la défense, mais aussi pour nos concitoyens, mais aussi en Afrique, parce que ce sont des constellations nord-sud, et elles vont effectivement aussi arroser le continent africain.
Ça fait très plaisir, une fois de temps en temps, qu'avoir quand même une bonne nouvelle à annoncer. Thierry Breton, merci donc d'être venu sur ce plateau, dans ce studio. Vous êtes le commissaire européen au marché intérieur et donc à l'espace. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.
RMC Football. Samedi à 15h au Stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, samedi à Montpellier avec RMC.